vous vous posez des questions, vous aimeriez changer votre vie, mais vous ne savez pas comment rebondir autrement, et finalement, il n'y aurait pas eu le choc de l'histoire dans votre existence, peut-être que vous auriez traîné comme ça pendant des années.
La petite histoire, c'est sa petite histoire du quotidien qui est bête, ordinaire, commune, tout ce que vous voulez. Quand elle s'insère dans la grande histoire, le choc de l'histoire qui a été énorme, immense. Aujourd'hui, il y a des gens qui crachent sur 68, mais comment peuvent-ils faire ça? Ça a été un changement si radical.
Pour vous, 68, ça se passe comment? Qu'est-ce qui se passe?
Alors 68, vite, je relève la maison, je fais les lits, je prépare le repas, je suis impassible pendant le repas, je sers, je fais la vaisselle, et après je file boulevard Saint-Michel. Et je vendais témoignage chrétien boulevard Saint-Michel. Alors avec mon tailleur Chanel et mes souliers à haut talon et mon collier de perles.
Ah, c'était votre look à l'époque?
Vous voyez comme je correspondais à l'esprit de 68. J'ai eu des prophètes, j'ai eu Cohn-Bendit qui tenait des discours extraordinaires. Il y a un autre homme connu, un autre prophète qui s'appelle Patrick Vivray, qui à 20 ans, je me souviens, il était très très beau ce type, et il tenait des discours sur la liberté, la libération, l'utopie, qui me laissait sans voix. Je disais comme ils ont raison ces jeunes hommes, moi je m'emmerde à la maison, on pourrait peut-être... Ça m'a aussi donné d'autres idées, ça m'a donné du courage, si vous voulez. Et je me suis dit, il faut que je me tire de cette vie conjugale épouvantable qui est éterne, je suis en train d'en mourir, tout le monde en meurt à la maison, il faut changer ça.
Drainer. Donc tous les soirs, vous êtes partis?
Ah non, mais les débats, c'était toute la journée, mais vous vous rendez pas compte de ce que c'était 68, que ça soit aux Beaux-Arts, que ça soit à la faculté des sciences où j'allais, que ça soit en Sorbonne, mais il y avait des assemblées générales toute la journée. Et j'entendais les discours de liberté, moi, que j'avais pensé avant, si vous voulez. Quand on a pensé dans son fort intérieur à plein de choses, à des idées de libération, parce que mes curés aussi me racontaient des histoires de libération.
Vous allez au débat à la Sorbonne et puis tout ça, vous entendez Patrick Vivray, Cohn-Bendit tenir des discours sur la libération, et le soir, vous revenez servir le repas à votre mari?
Ben, le soir, je reviens à 18h, parce que les enfants sortaient de l'étude à 18h. C'est là où je me suis dit, faut que je me tire de là, donc...
Et après mai 68, la décision a été prise. Il fallait trouver les modalités, mais...
Mais la décision a été prise à l'hôpital avec mon abcès au poumon. Maintenant, je me rends compte. La décision a été prise.
Ça, je ne mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Vous rentrez ici, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Enfin, y a avec le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors.
On va pas tout résoudre aujourd'hui. On pourra y arriver, l'imposer.
De toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron.
Tu disais ça il y a 3 semaines et plus un jour.
C'est une étape, c'est
pas... Ben oui.
C'est pas fini.
C'est bien ce qu'il a perdu, lui. T'as fait
propre. C'est pas fini, c'est une étape.
Il a dit, chez Mondeur, ça sera plus jamais comme avant.
J'ai commencé donc à travailler pour la période de Noël. Je me souviens, je vendais des machines à coudre, des machines à tricoter pour enfants. Vous voyez...
Donc, vous avez trouvé un boulot à Noël 68.
C'est ça, tout à fait. Et alors, ce qui m'a quand même encouragée, c'est que la chef de rayon du printemps du rayon jouets, Mademoiselle Van Mortel, je me souviens encore, elle avait un nom flamand, m'a dit Madame Fonbonne, je m'appelais Madame Fonbonne, il y aura toujours du travail pour vous. Donc je me suis aperçue que je ne manquerais pas de travail, c'était ça qui me... Donc je me souviens toujours qu'en Noël 68, il commençait à rouspéter, je me préparais pour la messe de minuit, vous voyez, encore un événement en cateau, et lui il était déjà au lit, et...
Il n'allait pas à la messe de minuit lui alors?
Ah bah non, il était fâché avec les curés, parce que les curés m'aimaient, alors c'était pas bien, tout ce qui me soutenait, tout ce qui me protégeait, c'était acheté. Alors il me cherchait les poux dans la tête pour je ne sais plus quoi. Ah oui, parce qu'il allait, comme je travaillais, il allait payer des impôts supplémentaires. Je lui ai dit, écoute Claude, t'es pas heureuse, je ne suis pas heureuse. Alors il avait quelqu'un depuis 2 ans déjà. Donc ça me soulageait un peu.
Vous le saviez?
Oh, bah oui, évidemment, je le savais.
Et ça vous embêtait pas?
Si, ça m'embêtait. Si, j'étais jalouse, bien sûr. Pourquoi, j'en sais rien. Mais d'un sens, ça me libérait. Il foutait le camp tous les dimanches. Moi, j'étais avec mes gosses le dimanche, on rigolait bien quand il était parti. Je me souviens que je lui ai dit, écoute, t'es pas heureux, je suis pas heureuse et les gamins sont pas heureux. Alors autant se séparer. Alors, bien entendu, je me suis fait traiter de tous les noms d'oiseaux dont il était capable. Mais le lendemain, il m'a dit, tu sais, j'ai réfléchi, oui, ça serait peut-être mieux. Donc, j'avais gagné. On a divorcé, et le 1er mai, il est parti. Et le 1er mai, mon fils, qui avait 16 ans, 17 ans à l'époque, m'a emmené, m'a dit, allez, viens, maman. Il m'a emmené au restaurant.